Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père en son Fils, Jésus le Christ, notre frère. Bienvenue à vous tous à l'Oratoire du Louvre dans cette maison de prière. Nous sommes rassemblés ce matin, comme chaque fois que nous célébrons un culte, pour rendre gloire à Dieu, exprimer notre reconnaissance et lui confier ce qui nous anime. Mais ce matin, c'est un culte spécial, parce que nous commémorons une date importante de l'histoire de la Réforme, le 24 août 1572, soit les 450 ans du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais cela reste un culte rendu à Dieu seul. Il est bon de garder en mémoire l'histoire des hommes qui se replacent sans cesse dans la grâce de Dieu, afin que nous puissions nous aussi rester vigilants quant aux violences qui sont faites aux êtres humains, hélas trop souvent au nom de Dieu lui-même. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou les réseaux sociaux et qui sont donc en communion avec nous. Soyez les bienvenus, vous aussi, les paroissiens fidèles, et vous, les personnes de passage qui êtes là peut-être pour la première fois. Et pour nous accompagner, merci à Aurélien Péter qui est à l'orgue ce matin. Et pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre le psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité ». Du psaume 36, nous chanterons d'abord la première strophe. Et je vous invite à vous lever. Louons l'Éternel avec le texte du psaume 91. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes, tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas de malheur, aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange et nous prendrons maintenant le chant du psaume 36, les strophes 2 et 3. Prenez place. Prions ensemble. Dieu notre Père, pour te louer, nous n'avons pas assez de reconnaissance. Pour te demander pardon, nous n'avons pas assez d'humilité. Pour te confesser, nous n'avons pas assez de foi. Pour te remettre nos vies, nous n'avons pas assez confiance en toi. Dieu notre Père, nous te prions sans rien avoir, mais en attendant tout de toi. Nous te demandons de venir régner sur notre monde, de te manifester parmi les hommes, de prendre ta place dans nos vies. Tu sais combien nous sommes des enfants blessés et fragiles. Apprends-nous à vivre ta grâce. Tu sais combien nous sommes des enfants violents et coléreux. Apprends-nous à vivre le service. Nous sommes tes enfants. Apprends-nous à vivre ensemble avec toi. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'éloigneraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Et nous restons debout pour partager une confession de foi attribuée au pasteur Charles Wagner. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices. Il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Et nous chantons le répond qui s'intitule « Grand Dieu, nous te bénissons ». Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin : je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit : les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Il dit à un autre : suis-moi. Celui-ci répondit : permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit : laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit : je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit : quiconque met la charrue, Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Éternel, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et nous prenons maintenant le chant du psaume 91, donc que vous trouverez dans le psautier français. Chant du psaume 91, les strophes 1, 3 et 4. Et je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Éternel Dieu de la vie, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes de notre destination dernière sont en toi, en ton esprit, qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, c'est de t'avoir perdu, ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais si ta parole, si nous savons l'entendre, ou si nous savons la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé, alors elle lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, Dieu notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, réunis aujourd'hui pour commémorer le 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, nous venons de chanter le psaume 91, ce psaume de confiance absolue, cette promesse de Dieu de protéger sa créature, de la défendre et de la secourir. Aucun coup ne menacera ta tente, car l'Éternel chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu piétineras le tigre et la vipère. L'amiral Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants, avait-il ces versets en tête lorsqu'il fut blessé par une arquebuse ce 22 août 1572, puis assassiné à coups de poignard au petit matin du 24 août, entraînant à sa suite l'assassinat à Paris de 3000 réformés par leurs voisins catholiques, alors que tous auraient dû se réjouir des noces d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, avec la sœur du roi, Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de la reine Margot, au palais du Louvre, à quelques mètres d'ici. D'autres carnages suivront ailleurs, dans le reste de la France, ainsi que l'écrit Jérémie Foa dans le prélude de son livre « Tous ceux qui tombent », je cite, « l'interminable été des Huguenots s'allonge jusqu'en octobre, moissonnant 10 000 vies ». Chaque année, lorsqu'approche cette date de cette commémoration qui a fait couler tant de sang, puis tant d'encre et tout autant de salive, il y a comme un malaise qui s'empare des uns et des autres au sujet des guerres dites de religion, où bien souvent la religion sert de prétexte pour assouvir sa haine de l'autre simplement parce qu'il est différent. On est bien loin de la fidélité à la parole de Dieu qui appelle à aimer son prochain comme soi-même. Et la mémoire n'est pas la même pour tout le monde. On a cette impression étrange que ce sont les protestants qui se souviennent essentiellement de cette folie meurtrière, puisqu'ils en ont été les premières victimes, et que cette mémoire se transmet de génération en génération sous la forme d'un traumatisme. Et lorsque nous nous retrouvons très souvent maintenant à la même table des rencontres, de discussions entre catholiques et protestants, ou que nous participons à des célébrations communes, nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte de l'extraordinaire chemin de réconciliation parcouru, en particulier ces dernières décennies, même si beaucoup reste encore à faire. Alors, en ce jour de commémoration, amis, frères et sœurs, que faisons-nous de cette autre parole que nous avons entendue, celle contenue dans l'évangile de Luc, qui nous livre un Jésus de Nazareth particulièrement exigeant et radical? Peut-être cette pensée a-t-elle traversé votre esprit, votre cœur, au moins une fois dans votre vie, et peut-être est-elle là encore présente en ce moment même. Ce Jésus est impossible à suivre. Peut-être même pensons-nous que cette parole n'est pas pour nous en ce temps de mémoire. Et pourtant, l'évangile de ce matin n'est-il pas une façon de nous dire que la Bible tout entière, et l'évangile en particulier, ne sont pas des livres au contenu édulcoré, mais que le message que nous pouvons y découvrir est souvent bien plus radical que nous l'imaginons, et surtout plus réaliste que la plupart de nos interprétations. Finalement, dans les évangiles, il n'y a pas de place pour un bon petit Jésus tout sucre et tout miel qui nous caresserait dans le sens du poil, mais il y a au contraire la présence prégnante d'un homme qui ne mâche ses mots avec personne, qui va jusqu'au bout de ce qu'il croit avec une bienveillance déterminée. Bienveillance, détermination, voilà entre autres deux traits qui pourraient caractériser l'amour de cet homme que nous appelons Jésus, Jésus le Christ, et qui malgré les siècles qui nous séparent maintenant de sa venue ne cesse d'appeler des hommes et des femmes à sa suite. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu. Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Alors cet extrait de l'évangile de Luc pose la question sensible du choix, la question de la suivance. Ce terme de suivance, qui se dit « Nachfolge » en allemand, est un néologisme lumineux que nous devons au traducteur de Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien allemand résistant exécuté par les nazis le 9 avril 1945. Et il désigne la marche du disciple à la suite du Christ. Et ce mouvement de suivance prend son élan, entre autres, par l'écoute de la parole de Jésus. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix chaque jour et me suive. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, suivre le Christ ? Si ce n'est dans la foi qui est la nôtre, de faire le choix du Dieu de Jésus-Christ. Alors si je regarde notre assemblée ce matin, nous sommes encore quelques-uns à avoir fait le choix, sinon du Christ, en tout cas celui de venir à l'oratoire du Louvre. Et venir ici, dans ce haut lieu qui rappelle une période difficile de l'histoire du protestantisme français, n'est pas innocent. Mais la journée commence tout de même avec le culte, qui va nous mettre d'une façon ou d'une autre en contact avec la parole contenue dans la Bible. Et en venant au culte, nous prenons un risque, celui de ne plus être le même en sortant, parce que nous aurons entendu une parole qui nous aura d'une certaine manière délogés, poussés dans nos retranchements, libérés peut-être pour une décision à prendre, comme une réponse à nos questions. Cette parole peut avoir des retentissements insoupçonnés dans notre quotidien. Venir à l'oratoire du Louvre, c'est aussi renouer avec notre histoire protestante et se souvenir que des hommes et des femmes, sous l'influence des réformateurs de leur temps, ont choisi de suivre le Christ autrement que dans l'institution de leur époque. Et même qu'ils l'ont payé de leur vie, en particulier lors de cette funeste nuit de la Saint-Barthélemy et des jours qui suivirent. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le règne de Dieu. Alors, si nous prenons cette exhortation au pied de la lettre, qu'allons-nous faire de la gerbe de fleurs que nous projetons de déposer ? Mais c'est évidemment dans un autre sens plus spirituel que nous sommes invités à entendre cette parole. Nous sommes invités à ne pas nous laisser enfermer par des idées mortifères qui anéantissent notre foi, notre espérance et notre amour. Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie, et pas seulement à la Saint-Barthélemy, pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres et responsables, d'être des témoins libres et responsables de l'Évangile tel qu'il nous l'a été transmis. À notre tour d'annoncer cette grâce de Dieu que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par une fidélité absolue, exactement celle décrite dans le psaume 91. Et c'est à notre tour d'annoncer que nous aimons Dieu parce qu'il nous aime le premier et que nous continuons, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, d'être son espérance. Notre vie est ainsi faite de haut et de bas dans notre quotidien. Chacun à notre façon, nous avons choisi de suivre le Christ. On le fait d'ailleurs pendant un temps dans l'Église ou dans nos engagements personnels, familiaux ou dans la société. Et puis parfois, il nous arrive de ne plus comprendre ce choix. Il nous arrive de ne plus comprendre non plus la portée de cet amour incroyable qui nous paraît tellement en décalage avec ce monde dans lequel nous sommes et qui fait encore et toujours la part belle aux horreurs, à la déchéance, à la torture, à la course au pouvoir, aux humiliations en tout genre, aux esclavages multiples, à la jalousie et à la perversité des relations entre les êtres humains. Et par-dessus tout, cet appel sournois à la peur de l'autre qui conduit à la haine de l'autre. Alors, se souvenir de la Saint-Barthélemy, ce n'est pas faire une victimisation des protestants, c'est être rendu attentif au fait qu'aucune société, pas même la nôtre, en ce moment, n'est à l'abri de la peur de la différence et du fanatisme qu'elle peut faire naître. Pour reprendre une citation de la conférence de l'historien du christianisme Michel Grandjean, enseignant à la faculté de théologie de Genève. Les réformateurs, en leur temps, ont proposé de nouvelles façons de se réapproprier la parole de Dieu, de la rendre accessible à leurs contemporains, afin qu'ils puissent faire le choix de Jésus-Christ en pleine conscience, à le suivre en toute connaissance de cause, avec un appel à la responsabilité personnelle et la responsabilité aussi en Église. Un théologien comme Théodore de Bèze ou un poète comme Clément Marot à leur époque ont pris le risque de versifier les psaumes, ils ont pris le risque de confier leur nouvelle traduction à des musiciens pour la composition de nouvelles mélodies polyphoniques pour que ces psaumes soient chantés en assemblée, afin que personne ne soit étranger au culte, ce qui a constitué une véritable révolution en son temps. Théodore de Bèze a écrit aussi une pièce intitulée « Abraham sacrifiant » qui est une autre façon d'entendre le contenu de la Bible en mettant des mots dans les silences du texte. Aujourd'hui, dans nos églises protestantes, et j'allais dire même réformées, des personnes ont ce souci d'innover la transmission de la parole pour notre monde. Des personnes s'investissent pour sortir la Bible hors des murs de l'Église. D'autres réécrivent des psaumes sur des mélodies plus actuelles, tout simplement parce qu'aujourd'hui le vocabulaire a changé, qu'on le veuille ou non, et les rythmes musicaux ne sont plus les mêmes qu'au XVIe siècle. Alors faut-il rappeler que le culte a été pendant longtemps un acte de résistance contre toute forme de persécution ? Non seulement au temps de la réforme et surtout après la révocation de l'édit de Nantes, mais plus récemment au cours de la Seconde Guerre mondiale, ici même, dans ce temple. Et c'est la même question pour la prédication de la parole, sans cesse actualisée, modernisée, actuellement relayée par des nouveaux médias comme Internet. Et on voit comment cela a été d'une nécessité absolue d'actualiser nos pratiques, en particulier au temps du Covid-19. Alors, mes amis, faire le choix ou suivre Jésus-Christ, c'est faire le choix d'une vie nouvelle, d'une vie renouvelée de l'intérieur, qui va aussi nous donner de la force pour innover à l'extérieur, renouveler la forme de notre témoignage en intégrant l'évolution de notre monde contemporain, tout comme les réformateurs avaient intégré cela dans leur annonce de l'Évangile, la modernité de leur époque. Alors j'y décèle deux exigences. La première, c'est renoncer à regarder en arrière, comme l'indique ce verset, mettre la main à la charrue sans regarder en arrière, c'est-à-dire vivre aujourd'hui, non pas avec la nostalgie d'un passé sûrement idéalisé, mais qui finalement est un frein ou une entrave à l'annonce de l'Évangile, et qui pourrait nous faire oublier de tout ce qui nous fait nous réjouir de ce que nous vivons ici et maintenant, et d'être reconnaissant pour toutes les avancées entre nos églises, par exemple pour un œcuménisme de terrain qui s'élargit maintenant aux relations interreligieuses. Avancer sans regarder en arrière, avancer sans laisser personne en arrière. Et la seconde exigence est de prendre conscience avec honnêteté de tout ce qui est dépassé dans le fonctionnement de nos églises, églises locales, mais églises, et supprimer petit à petit tout ce qui est devenu trop poussiéreux dans nos communautés, et oser intégrer des façons nouvelles, par exemple de faire le catéchisme, comme écrire sa Bible à soi dans les ateliers d'écriture que nous avons inaugurés cette année avec l'éducation biblique. Tout ce qui permet, au fond, de penser par soi-même et d'innover dans la forme de la prédication en renouant avec l'oralité de la parole tout en s'appropriant le fondement des Écritures. Et là, je vous renvoie librement au culte du 12 juin dernier. Ceci dit, le monde d'aujourd'hui est tout aussi troublé que celui du XVIe siècle. Malgré les massacres, malgré les guerres, malgré les violences religieuses en tout genre, tout cela nous montre que le monde n'est toujours pas prêt à accueillir la parole. Et au fond, les chrétiens, avec leur histoire tumultueuse, continuent tout de même, malgré tout, d'être les témoins de l'Évangile avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains imparfaits, mais toujours en chemin. Nombreux sont ceux qui ont payé de leur vie leur engagement dans la foi. En particulier, je pense à un pasteur, Martin Luther King, qui a payé aussi de sa vie son engagement pour le droit et la justice, pour les Noirs comme pour les Blancs. Il écrivait dans l'une de ses prédications : Rappelons-nous la parabole de l'homme qui vient frapper en pleine nuit à la porte de son ami pour lui demander 3 pains. Il est minuit dans notre monde troublé. Mais comme dans la parabole, la profonde obscurité de minuit est troublée par le bruit d'un coup frappé. Aujourd'hui, et c'est ce qui est important, à la porte de l'église avec un grand E, des millions d'êtres humains frappent et eux aussi demandent 3 pains. Dans leur désillusion, ils aspirent au pain de la foi. Dans leur désespoir, ils supplient qu'on leur donne un peu de pain d'espérance. Dans la solitude où les laisse l'indifférence du monde, ils cherchent désespérément le pain de l'amour. Si elle sait partager avec les êtres humains ces 3 pains de vie, l'Église manifestera au sein de l'obscurité de minuit que le matin vient. Amis, frères et sœurs, que ce soit au temps du XVIe siècle ou aujourd'hui, eh bien notre mission est toujours la même que celle de nos prédécesseurs. Annoncer au monde une espérance et un amour qui dépassent notre imagination, mais qui fait de nous des hommes et des femmes debout, autrement dit, des vivants. Amen. Dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre le numéro 390, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
Prenez place. Et j'invite Aurore Saglio-Thébault, présidente du Conseil presbytéral, à prendre le relais des annonces.
Tu as choisi un psaume qui permettait de lancer les offrandes. Alors, je vais juste faire l'annonce entre les deux. Bonjour à tous, au nom du Conseil presbytéral, un grand merci d'être parmi nous en ce 28 août et également un grand merci à tous ceux qui nous suivent en ligne puisque vous êtes extrêmement nombreux ce matin en direct. Je vais surtout consacrer ces annonces au déroulé de la façon dont nous allons nous organiser. Je remercie d'abord les services de l'État et de la ville de Paris d'avoir nettoyé le jardin Coligny derrière et services de l'État qui nous protègent. À commencer par Vigipirate aujourd'hui. Donc nous devons suivre un protocole. Nous allons donc, juste à l'issue de ce culte, et après les offrandes et l'envoi, nous partirons de ce côté-là pour le dépôt de gerbe. Nous aurons parmi nous Madame Laurence Patrice au nom de la ville de Paris. Laurence Patrice est adjointe au maire chargée de la mémoire et du monde combattant. Donc nous travaillons beaucoup avec ses services et son équipe, également pour les 80 ans du sauvetage des 63 enfants juifs l'année prochaine, puisque vous savez que le pasteur Vergara, les paroissiens, son assistante, son épouse, le centre maintenant du CASP dit La Clairière, a participé au sauvetage de 63 enfants juifs en février 1943. Donc je vous laisse nous suivre et suivre les pasteurs de ce côté-là pour le dépôt de gerbe. Et après, nous aurons le professeur Olivier Millet, qui a eu la gentillesse, merci Olivier, de venir nous faire part de ce qu'il a déjà expliqué à plein de chercheurs universitaires du colloque international de la Sorbonne dont nous étions partenaires en mai dernier, des découvertes de ses dernières recherches sur l'origine et la signification du monument Coligny. Parce que nous allons tous aller voir le monument Coligny. Nous avons dans la première chapelle une exposition qui explique l'origine de ce monument. Mais de ce que j'ai compris rapidement d'Olivier, nous avons à le mettre à jour. Parce que vous avez, Olivier, fait de nouvelles découvertes. Donc venez après le dépôt de gerbe. Une demi-heure, nous prendrons avec le professeur Olivier Millet, qui sera aussi la semaine prochaine, dimanche prochain, à l'Assemblée du Désert pour parler des 450 ans de la Saint-Barthélemy. Donc, Jean-Luc Buisson, notre vice-président, Béatrice Cléromazir, seront aussi à Mialé la semaine prochaine. Donc, si vous avez l'intention de venir le week-end prochain, vous vous inscrivez sur désert2022@oratoiredulouvre pour rejoindre le groupe et rejoindre aussi, finalement, Irène Carbonnier, notre secrétaire de bureau qui est déjà là-bas, Béatrice Cléromazir, Olivier Millet, Jean-Luc Buisson, son épouse à côté. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous restons avec Agnès dimanche prochain ici. Il y a culte aussi et ça sera le culte pour l'entraide la semaine prochaine. Si aussi nous vous faisons passer par l'arrière, c'est pour des raisons de sécurité, mais également pour le plaisir des yeux et de la connaissance, puisque la librairie Jean Calvin, dans la grande sacristie, à déplacer la librairie avec un stand particulier, avec des ouvrages d'Olivier Millet, dont un est en rupture de stock, mais ils en ont trouvé 5, pour information. Et nous avons d'autres ouvrages consacrés à la Saint-Barthélemy, dont une BD, et le fameux aussi Jérémy Fora, que tu as cité, Agnès. Voilà, c'est le temps de l'offrande. Les activités de l'oratoire, la semaine prochaine, c'est jeudi pause spirituelle. Et à partir de la semaine d'après, nous reprenons vraiment toutes les activités. Vous trouverez dans la feuille rose du désir de conquérir sur un sujet qui nous est cher, qui est l'utilisation de la religion comme prétexte à beaucoup de guerres et de théologie totalitaire. Donc, vous l'apprenez, vous saurez tout en avance. Sinon, vous vous inscrivez le vendredi à la newsletter que nous envoyons par mail. Et puisque le drapeau ukrainien est sur notre feuille rose, je voulais juste rappeler que le 24 août 1991, c'était la déclaration de l'indépendance de l'Ukraine. Voilà, merci à tous et bon dimanche et à tout à l'heure.
Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu mets aujourd'hui au cœur de notre mémoire. Nous te remettons celles et ceux qui un jour ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent, parfois jusqu'au don de leur propre vie, en particulier dans les lieux où règnent la guerre, la violence, l'injustice. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir ou le chagrin, celles et ceux qui disparaissent dans l'enfer de la torture, celles et ceux atteints par toutes sortes de maladies, ou rejoint par l'approche de la mort. Nous te remettons les familles en deuil. Et toute personne touchée par la solitude ou celle dont le droit est bafoué. Nous te prions de procurer la paix au peuple de la terre en donnant la sagesse à celles et ceux qui les gouvernent sur le plan politique, économique, social. Et fais de nous, là où nous sommes placés, des citoyens attentifs, constructifs, et selon leur foi, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et au cœur du monde. Nous te prions pour que résonne en nous le don de la vie de chacun, afin que celles et ceux qui sont morts pour leur foi ne soit pas mort pour rien. Alors, continue de nous guider, de nous donner soif de justice, le courage de chercher la justice et la force aussi d'entendre que la justice des hommes ne sera jamais ta justice. Et qu'à l'encontre de notre propre justice, en ta grâce seule, sera toujours l'incompréhensible recours. Nous t'en prions. Veille inlassablement sur ton Église, visible et invisible, qui finalement n'a ni dénomination, ni frontière, et que toi seul connais. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.